Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du Forum du Studio Kalangu. Mon micro, c'est Hamadou Moumouni. Merci de nous écouter, notamment à travers le réseau de radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Merci de nous suivre surtout à Agadez, où nous délocalisons pour la première fois ce forum. Une façon d'être plus proche de celles et ceux qui nous écoutent. Une façon plus vivante de parler de leurs préoccupations du moment. À Agadez, parmi ces préoccupations figure la lutte contre la migration à travers notamment l'application de la loi 2015-36. Le forum du studio Kalangu délocalisé à Agadez, c'est une série de 4 numéros exclusivement consacrés à la région et c'est avec le concours de la radio Sahara FM qui nous offre son studio pour les différents enregistrements.
Nous n'oublions pas non plus la contribution de notre partenaire diffuseur, la radio Nomad FM.
La loi 2015-36, en vigueur depuis mai 2016, pénalise principalement les trafiquants de migrants clandestins, communément appelés passeurs. L'accent est mis sur la répression. Pourquoi? Eh bien parce que le Niger est un point de connexion des migrants clandestins. Ces derniers sont Sénégalais, Gambiens, Ghanéens, Ivoiriens, Maliens qui n'ont rêve que d'aller en Europe. Par milliers, ils se retrouvent dans les gares routières de Niamey pour se ruer vers Agadez, Agadez zone de transit phare. En 2016, au plus fort de l'affluence, la matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale sur la migration, OIM, a enregistré le passage d'un total de 60 970 migrants dans les villes d'Arlit et de Séguédine entre les mois de février et d'avril. Pour mettre fin à cette situation, le gouvernement a pensé à cette loi qui s'applique à toutes les formes de trafic illicite de migrants. Cela fait un an que cette loi est appliquée. Une année après, quel bilan peut-on tirer? Bilan en termes de dissuasion des migrants et de leurs complices? Bilan en termes de conséquences sur la vie socio-économique, notamment pour la ville d'Agadez, l'immigration étant devenue en quelques années le principal fonds de commerce de la ville. Beaucoup de jeunes, en effet, disposant de véhicules, se sont lancés dans le transport des migrants clandestins. Beaucoup d'autres se sont lancé dans le business des passages et celui des maisons d'hôtes appelées aussi ghetto. Chers auditeurs, la loi anti-immigration à Agadez, pour en parler, nos invités dans ce forum qui se veut un dialogue, une discussion dans le respect de l'autre, nous avons le vice-président du conseil régional d'Agadez, M. Aklou Sidi Sidi. Bonsoir, M. Aklou. Et il y a aussi M. Bachir Hamma, qui est un ex-passeur. Bonsoir, M. Bachir. Nous avons aussi à ma droite le représentant de l'Organisation internationale de la migration, OIM, M. Azawa Mohamed. Merci d'être venu. Nous avons le deuxième vice-maire de la commune d'Agadez, Ahmed Koussa. Comme je le disais en introduction, c'est en main que la loi est entrée en vigueur. Et les principales cibles, ce sont pratiquement les passeurs et les clandestins qui sont réprimés. Au bout d'une année, évidemment, il y a des résultats. Avant de parler de ces résultats, nous allons essayer de voir un peu le contenu de la loi 2015. Je vais commencer avec le premier vice-président du conseil régional. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la loi anti-immigration, spécifiquement concernant les passeurs et les migrants clandestins?
La loi 2015-036, qui a connu justement, comme vous l'avez dit, son application en mai 2016, est une loi pour nous justement qui est contraire au protocole de la CEDEAO. Parce que quand vous parlez de migration illicite, vous parlez de migrants illégaux, ça veut dire que vous faites abstraction effectivement d'un cadre juridique qui existait. Parce que la migration justement, les migrants que nous accueillons au niveau de la région d'Agadez sont des migrants ressortissants effectivement des pays membres de la CEDEAO. Et le protocole de la CEDEAO parle de la libre circulation des personnes et des biens. Donc la migration, avant cette loi, était conforme justement à ce protocole-là.
Pas de clandestins. On les appelait pas comme ça.
Bon, c'est-à-dire, même s'il existe, la migration, c'était une activité légale. D'un point de vue, quand vous regardez effectivement ce qui se passe, pour moi, elle était légale. Maintenant, après le sommet de la Valette, il fallait que le Niger continue effectivement du plan d'action qui a été présenté qu'au terme, qu'en janvier 2017, que le Niger présente effectivement un bilan des dispositions qu'il aurait prises par rapport justement à cette question de la migration et de ses engagements au niveau de ce sommet de la Valette. Donc on a pris...
Vous voulez dire que le Niger a pris cette loi pour plaire à l'Occident, à la Valette,
en tout cas, c'est pas pour plaire aux populations du Niger, aux populations de la région d'Agadez. Parce que il faut être assez clair pour le dire, cette loi, elle a ceci de frustrant qu'elle ne s'applique qu'à partir de la ville d'Agadez.
Uniquement.
C'est-à-dire que les migrants peuvent quitter Niamey, ils peuvent circuler librement sur le reste du territoire national, mais vous ne pouvez pas les prendre ce n'est qu'à partir d'Agadez que quand vous les prenez, vous êtes en infraction.
Comment vous qualifiez cette loi?
Je ne sais pas,
responsable du conseil.
Alors, vous allez trouver les termes qui conviennent, mais ce qui est sûr, c'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures.
Le deuxième vice-maire.
Je dirais certainement que cette loi nous a beaucoup pénalisé au niveau d'Agadez. Je dirais que cette loi, au fait, c'est comme si elle est appliquée uniquement pour Agadez.
La parole à Bachir, vous êtes un ex-passeur.
Je suis ex-passeur. Nous, la loi, là, on prend ça, une loi, on peut dire illégale, parce que c'est une loi qui frappe Agadez seulement. C'est ici Agadez seulement. Tous les immigrants qui arrivent ici à Agadez, ils quittent Niamey pour arriver à Agadez.
Pourquoi vous dites que c'est Agadez seulement?
C'est Agadez seulement, parce que c'est les voitures qui les prend pour les amener ici à Agadez. Il y a les policiers en route, il y a des barrières en route. Donc c'est à partir d'Agadez, si tu prends un passager pour aller vers Durkou ou bien Madama, tu seras arrêté. Donc comme le premier vice a dit, tous les immigrants qui arrivent à Agadez, c'est état membre de CEDEAO. Donc ils peuvent venir ici jusqu'à aller à Madama, jusqu'à aller à Durkou. Donc c'est à partir d'Agadez.
Mais c'est appliqué principalement aux passeurs. Qu'est-ce qu'un passeur, M. Bachir?
Un passeur, c'est celui qui accueille les passagers. C'est ça,
quel qu'il soit, quelle que soit la nationalité.
Quelle que soit la nationalité.
Et vous gagnez quelque chose, hein, bien sûr.
Oui, on gagne quelque chose. C'est notre activité.
Oui, monsieur le maire.
Je déteste un mot que souvent les gens parlent quand ils parlent de ces passeurs-là, ils disent des trafiquants. Moi, je dis que c'est pas des trafics. Avant, c'était
une activité légale
où les gens sont permis de faire des transports. Mais aujourd'hui, on les qualifie de trafiquants et tout le monde le sait que un Sénégalais ou un étranger qui vit à Agadez ici, il part à Libye. À partir d'Agadez, il va à Libye. Maintenant, le reste, on ne sait pas s'il va en Europe, il va là où il veut. Ce n'est pas un problème pour quelqu'un d'amener des gens d'Agadez à Saba. Où est le problème?
Monsieur Azawa, vous qui représentez l'OIM, qu'est-ce que vous avez à dire sur la loi?
Nous, en tant qu'OIM, nous portons assistance aux migrants en détresse, aux migrants vulnérables sur les routes migratoires, au retour de la Libye et d'Algérie, aux migrants qui sont bloqués effectivement dans la région, dans la ville d'Agadez, pour des raisons ou d'une autre, nous leur apportons assistance dans les retours de leurs familles respectives et dans la dignité.
Je voudrais des explications, monsieur le président du conseil régional, sur les formes de répression qu'on retrouve dans la loi qui ne vous plaisent pas, puisque vous dites que c'est deux poids, deux mesures.
Ce que nous constatons, c'est que les migrants, ils nous viennent à Agadez dans des compagnies de transport. Ils viennent en toute impunité dans des compagnies de transport qui les amènent jusqu'à Agadez. Mais à partir d'Agadez, dès que quelqu'un le prend, il est d'abord emprisonné et on lui confisque effectivement son moyen de transport. Voilà un peu ce qui se passe. Alors que il aurait fallu interdire depuis Niamey, depuis Zender, depuis le Sud, aux transporteurs de transporter les migrants jusqu'à Agadez, puisque la loi est nationale, comme vous l'avez dit.
Vous avez parlé de confiscation des biens.
Oui, la confiscation.
Quelle autre chose encore on trouve dans la loi?
Bon, en général, c'est ça. C'est les deux conséquences qu'on peut souligner a priori. C'est la confiscation des biens, c'est l'emprisonnement effectivement de la personne qui s'occupe des migrants. Ce qui frustre le plus, c'est que on arrête le Nigérien, on lui confisque ses biens et on laisse le migrant se balader en toute impunité dans la ville d'Agadez. Donc finalement, ce sont les populations de la région d'Agadez qui payent le prix le plus fort des conséquences liées à cette migration.
Bachir est un ex-passeur. Si on vous dit de décrire les répercussions de la loi, les formes de répression auxquelles vous faites face, quelles sont-elles?
Concernant la loi, aujourd'hui, dès que tu es passeur, tu as les problèmes. tu as les problèmes, surtout même si tu es passeur nigérien. Parce que cette activité-là, maintenant, ici à Gadez, tous les Nigériens, ils ont fait déclaration même d'arrêter ça. Mais actuellement, il y a des gens qui font ça. Si tu circules à Gadez, comme le président dit, il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de ghettos. Et encore, c'est les étrangers qui font ça. Les étrangers qui font ça, ils ont des foyers, ils ont des ghettos. Et encore, les voitures même qui viennent pour prendre les passagers, ça quitte Libye directement ici pour prendre passagers. Vous voyez. Et encore, les autorités, ils voient, ils connaissent qu'il y a des foyers.
Une loi, c'est une loi, et c'est appliqué en tout cas depuis un an. Et à en croire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Ahmed, il y a eu des résultats sur le terrain. Voici le bilan qu'il a dressé le 13 mars dernier lors de la visite des ministres français et espagnols de l'Intérieur venus parrainer les accords tripartites des polices nationales du Niger, de la France et de l'Espagne sur la lutte contre la migration.
Nous avons pu intercepter depuis le mois de juillet dernier jusqu'à 113 véhicules. Nous avons pu déférer en justice 126 personnes et nous avons ramené des milliers de personnes à Agadez.
Monsieur Bachirou, ex-passeur, vous avez écouté le bilan. Il y a eu des milliers de gens qui ont été pris, qui sont retournés. Il y a eu des véhicules qui ont été récupérés.
Bon, concernant les voitures, ça je vais te dire. On sait qu'il y a des voitures qui sont maintenant à la compagnie et on sait qu'il y a des chauffeurs qui sont en prison. Mais pour les milliers de personnes qui sont arrêtées, moi je ne peux pas te dire que tous sont retournés. Parce que les immigrants là, si les policiers ils les prennent, ils l'amènent à la police. La police l'amène à l'OIM. Les passagers sont libres à l'OIM. Ils se retournent encore dans la ville pour continuer. Tu vois, parce que nous on connaît les passagers, les immigrants là on les connaît, ils sont déterminés. S'il veut partir là, il veut partir. Si quelqu'un ne veut pas partir, lui-même, il est découragé, c'est lui-même qui part à l'OIM.
Monsieur Azawa, vous représentez l'OIM dans ce studio. Mmh. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur dresser un bilan, disons, assez élogieux quand même en une année. Quelle est votre appréciation du discours qu'il a fait et est-ce que c'est ça la réalité du terrain? Vous recevez les migrants.
Nous savons que l'OIM reçoit les migrants, comme disait Bachir, et nous recevons les migrants qui viennent de façon volontaire. En cette année, nous avions assisté plus de 4000 migrants qui ont, en 2016 en tout cas, qui ont transité par les centres de transit et nous les avons assistés de façon volontaire jusqu'à retour dans leur pays respectif.
En quoi est-ce que la loi a changé la donne par rapport à 2015 où la loi n'était pas appliquée?
Et la loi a changé sur le nombre de retours parce qu'on a constaté qu'en 2015, on a assisté 1700 et quelques migrants. En 2016, nous avons assisté 4000 et quelques migrants. Donc, voyez-vous, et cette année, tout force à croire qu'on va assister plus de 6000 sur l'année.
Toutes catégories
confondues. Toutes catégories. Non, pas avec les Nigériens, mais les nationalités ouest-africaines qui interviennent au niveau.
C'est des migrants qui ont été pris à Agadez ou bien en dehors d'Agadez ou qui sont revenus d'eux-mêmes?
J'aimerais que profiter de ces débats pour lever une équivoque. Et nous, en tant qu'OIM, en tout cas, nous avons pour mandat d'assister les migrants qui ont volontairement décidé de rentrer chez eux. Nous avions entendu peut-être des gens qui ne sont pas imprégnés du mandat de l'OIM dire que l'OIM, c'est elle qui applique la loi, c'est elle qui force les migrants à retourner chez eux. Non, ce n'est pas ça. Nous, en tant qu'OIM, nous sommes une agence intergouvernementale, une agence des Nations Unies qui intervient pour que la migration soit une migration régulière, une migration légale qui profite aux migrants, qui profite à la communauté de transit et qui profite aussi à la communauté d'accueil. C'est dans ce cadre que nous avons ouvert en 2016, en avril, le bureau d'écoute et d'orientation qui oriente ces migrants.
En termes d'appréciation, voilà. Donc vous pensez que la lutte avance et que la loi a permis quand même de modifier les rapports?
Je n'aimerais pas rentrer dans le cadre de la loi. Moi, j'aimerais
les résultats de la loi.
En tant qu'OIM,
mais les résultats.
Non, j'aimerais qu'en tant qu'OIM, que vous conviendrez avec moi, que nous intervenons que dans un côté où c'est les migrants qui reviennent volontairement au niveau de ce centre de transit.
On va donner la parole à monsieur le vice-maire de la ville d'Agadez.
Effectivement, quand on met en place une loi et son application, c'est qu'il y aura des résultats. Et vraiment, c'est élogieux les résultats que vient de nous annoncer les ministres. C'est vrai.
Vous êtes d'accord
pour un certain temps, ça peut se faire. juste pour un an, parce que l'application de la loi nécessite beaucoup de moyens qu'il faut mettre pour empêcher les gens de partir ou de diminuer le flux de diminuer. Mais aujourd'hui, on sait que ça devient encore plus cher de partir à Libye, et les gens, comme il vient de le dire, Bachir, continuent de partir jusqu'à présent avec d'autres moyens beaucoup plus efficaces qu'avant, quoi.
Monsieur le vice-président du conseil régional.
Je ne veux pas trop commenter ce qu'a dit le ministre. Il a présenté un bilan à la consommation effectivement des partenaires, mais il aurait fallu justement qu'il présente un bilan global lié aux conséquences effectivement de cette loi sur les populations nigériennes. Combien de Nigériens sont au chômage? Combien sont au chômage?
Mais vous êtes d'accord avec lui que
c'est sûr que la loi justement a permis aux migrants de sortir du cadre qu'on connaît. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas une délocalisation effectivement des axes sur d'autres au niveau des villages, au niveau des zones rurales, où d'ailleurs ils sont difficiles à contrôler. La migration d'abord ne va pas s'arrêter. Ça, il faut être très clair là-dessus. Elle ne va jamais s'arrêter, la migration.
Malgré la loi,
elle ne va pas s'arrêter.
Malgré les résultats
qui ont été enregistrés. Pourquoi elle ne va pas s'arrêter? Parce que cette loi aurait pu d'abord, avant d'être prise, prévoir tous les mécanismes d'accompagnement. Ça veut dire qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour occuper effectivement les prestataires locaux de la migration. Tant qu'on ne fait rien pour ces prestataires locaux de la migration ne va pas s'arrêter. Elle va devenir d'abord plus criminelle, parce qu'elle va échapper justement au contrôle de l'État, et au contrôle effectivement des collectivités territoriales, au contrôle de forces de l'ordre, comme ça se faisait dans l'État.
Alors, pour vérifier de notre côté cette réalité que le ministre a décrite, nous avons, dans le cadre de cette mission, fait un peu le tour des ghettos. Nous avons produit un reportage que je vous propose de suivre sur la réalité des migrants dans la ville d'Agadez.
Ils sont toujours très nombreux, les jeunes migrants clandestins, à affluer à Agadez. Objectif, traverser le Sahara pour la Libye ou l'Europe. Affluence, en dépit de l'application de la loi 2015-36 qui criminalise la pratique. Ces jeunes, on les retrouve un peu partout, par dizaines et des dizaines, dans les maisons de passage de la ville appelées ghetto. Ils sont maliens, ivoiriens, sénégalais et nigériens, comme John et Célestine. Les deux affirment embarquer dans les 24 à 48 heures qui suivent.
Well, ATM number.
Where do you want to go?
I don't know the place. My sister doesn't know the place.
When will you go?
Tomorrow.
I'm from Nigeria. I'm going to Libya. By grace of God, it should be today or tomorrow. Of course, I pay money for it.
How much?
From Agadez to Libya, it should be 100,000 naira in Nigerian money or 120.
Mohamed Lamine est un Malien de 29 ans. Lui, il a même traversé une partie du désert en novembre dernier après avoir déboursé quelques 750 000 francs CFA. C'est un accident de leur véhicule qui a mis fin à son rêve.
Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est trop, c'est grave. Je ne peux pas expliquer. C'est pas facile. Sincèrement dit, c'est vraiment si les autorités africaines pouvaient faire quelque chose, c'est eux qui doivent faire quelque chose pour que ça s'arrête. Vraiment, ils ne pensent pas que ça va finir quoi facilement.
Ahmed Mohamed est depuis plus de 5 mois un ex-passeur local. Il a abandonné l'activité avec la mise en application de la loi anti-migrant. Il affirme, comme lui, que beaucoup d'autres jeunes de la ville ont cessé l'activité. Pourtant, affirme-t-il, les migrants continuent de passer, peut-être même plus qu'avant, parce qu'ajoute-t-il, les étrangers ont pris les choses en main.
Les gens continuent de faire le boulot, encore ce sont des étrangers, soit Burkinabé, Malien, Nigeria, avec les gens de Toubou. Si tu as vu quelqu'un ici, il va venir avec l'adresse de son frère, c'est lui qui va l'envoyer. Encore les étrangers là qui travaillent, ils sont connus, la plupart sont connus. Regardez ici, par convoi, je crois que, dans les semaines, tu vas avoir toujours des 15 à 20 véhicules qui ont quitté Agadez pour Libye. Des étrangers seulement. De la main des étrangers pour la main de Toubou. Les Toubou, mais ce sont des Libyens.
Comment ces étrangers arrivent-ils à faire passer leurs frères migrants clandestins alors que la loi est en vigueur? Pour Ahmed, cela ne s'explique que par la corruption.
Tu sais, le problème, nous, on ne peut pas corrompre pour quelqu'un. C'est pas forcément que je te corrompe. Si je veux, je prends, je te donne. Mais ils corrompent des gens. Dans l'affaire de trafic illicite, là, il y a les gens qui sont impliqués. C'est comme avant, rien n'a été changé.
À Agadez, la loi anti-immigration s'applique depuis un an. Mais le trafic des migrants clandestins a encore des beaux jours devant elle. Moussa Maman, Amadou Moumouni, Agadez pour Studio Kalangou.
C'est un reportage que nous avons réalisé dans les ghettos de la ville d'Agadez. Je vais donner la parole à Monsieur Azawa. Si on vous dit de décrire un peu la réalité de la migration aujourd'hui à Agadez, est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'elle ne l'est pas?
Globalement, ce qu'on peut noter, la ville d'Agadez, comme vous le savez tous, c'est une plaque tournante pour les migrations. C'est une ville à vocation touristique. Et jadis, elle était carrefour des migrations. Mais ce qui est sûr, il y avait eu des changements par rapport à un certain moment suite à l'application de la loi 36-2015. On a tendance à voir les migrants qui sont rarement de la ville. Et le commerce qui jadis est prospéré par les migrants qui sont là, qui achetaient la nourriture, qui achetaient le bidon, et qui viennent dans les banques pour faire des retraits, et ça n'existe plus. Et nous avons fait une mission la semaine passée à Drukou. Et j'ai discuté avec le maire de la commune de Drukou. Il me disait en 2010, il recevait les taxes sur les migrants jusqu'à 3 millions de francs par mois. Aujourd'hui, il ne reçoit que 60 000.
Et ça, c'est la conséquence de la loi?
Je pense que c'est les conséquences de l'application de cette loi, mais aussi le fait que les migrants ont changé de route. Les migrants, maintenant, ne prennent plus les voies qu'on connaissait. Et le flux migratoire, en partance, on ne les voit pas. Mais de l'autre côté, sur la Méditerranée, on voit que les migrants sont en train de partir. Et le flux.
Ça veut dire qu'il y a eu de nouvelles routes?
Il y a eu carrément de nouvelles routes qui se sont créées pour contourner les voies des checkpoints de police.
Monsieur Bachir, vous qui êtes vraiment une victime, si on peut l'appeler ainsi, de la loi, vous êtes ex-passeur maintenant. Décrivez-nous votre vie avant d'être ex-passeur. Est-ce que c'était joli? Comment vous vivez la migration? Qu'est-ce que vous gagnez dedans?
Oui, bon, dans l'immigration, je vais te dire 70% de la population d'Agadez vit dans l'immigration. Donc, avant d'arrêter ce travail, on vit bien, on gagne de l'argent. Les gens profitent de l'immigration ici à Agadez. Après le tourisme, c'est l'immigration qui a remplacé le tourisme.
Qu'est-ce que vous avez gagné dedans?
Bon, on a gagné beaucoup de choses dedans. On a gagné beaucoup de choses.
Oui, concrètement, décrivez-nous.
Bon, beaucoup de choses.
Quand vous étiez passeur, oui. Par exemple, par jour,
quand
par
je ne suis pas passeur, je n'ai pas une maison, mais maintenant j'ai une maison, donc j'ai gagné. Il y a beaucoup qui ont gagné des maisons.
C'était votre activité?
Oui, c'est mon activité.
Et aujourd'hui, vous devenez...
Bon, aujourd'hui, moi, je ne fais rien. On est là, on regarde avec la loi. On est en train de voir, on va faire comment. Comme il y a vice-président du conseil régional avec les vice-maires, maintenant, on est en train de les regarder.
D'accord. C'est eux qui vont... vous les regardez, on va leur donner la parole. Monsieur le vice-maire.
Je veux vous dire que moi, j'étais le président de l'organisation de la table ronde sur la migration au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Donc, au tout début, nous avions fait un constat au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Et quand la loi a été mise en application, il n'y a pas eu sensibilisation. Les gens n'étaient pas sensibilisés que la loi, là, voilà ce qu'elle doit être. Directement, on a vu que la loi est mise en application et on doit la respecter, c'est la loi de notre pays. Mais au niveau de la commune urbaine d'Agadez, on a fait un constat.
Bien sûr.
Mais on a fait un constat. Oui, ça a été dit depuis le début de ce débat-là que les gens étaient pris en cours au niveau de la mise en application de cette loi. Ça, ce n'est pas un débat à revenir là-dessus. Mais nous, on avait fait un constat au niveau de la commune urbaine d'Agadez. On s'était dit que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est qu'on a arrêté cette activité de transport des migrants. Et nous, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'on risque d'avoir un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que risque d'avoir des problèmes sécuritaires d'abord, sur le plan sécuritaire. Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes travaillent autour de ces migrants-là et gagnent beaucoup d'argent.
Vous avez des chiffres?
Oui, mais bien sûr, on se retrouve entre 700 à 800, voire un millier de jeunes qui gagnent.
Je vais vous dire,
il y a ceux qui accueillent les migrants, il y a ceux qui les transportent dans les ghettos, il y a ceux qui les font manger, il y a ceux qui gagnent avec les locations, il y a ceux qui gagnent dans les transports, il y a ceux qui font les tchagas comme on l'appelle dans l'ensemble des choses, et beaucoup de gens autour de ça gagnent de l'argent. Beaucoup de jeunes ont laissé d'autres activités pour aller dans cette activité au niveau de la commune de Bandagadez. Pourquoi les gens ont accepté de laisser? C'est parce qu'ils ont déjà des familles. ils sont installés dans la commune. Ils ont des familles. C'est des gens de la commune urbaine d'Agadez. On s'était dit qu'au niveau de la commune, ça n'allait pas marcher.
Oui,
nous, on avait vu ça et on avait organisé. Quand on avait organisé la table ronde, on ne pensait même pas qu'il y a des fonds qui seront amenés en appui. Rien n'a été annoncé. C'est au niveau de la table ronde que nous avions émis toutes ces doléances et nous avions fait beaucoup de recommandations.
Pour les répercussions économiques pour la ville,
oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner des données chiffrées?
Mais c'est simple.
Monsieur Azawa a donné le cas des Djoukous.
Oui, mais au niveau, oui, ça c'est clair. Au niveau des Djoukous, de toutes les manières, les gens vont contourner, mais il est impossible de contourner à Agadez. Par rapport à un migrant, oui. Ne peut pas contourner la commune urbaine d'Agadez. Il va venir dans la commune, c'est à partir d'ici qu'on peut le prendre et contourner les autres communes. Ça c'est clair, il n'y a pas de
problème.
L'amener dans une commune rurale et continuer. Ici, au niveau d'Agadez, on a fait des constats. Là, d'abord, il y a le chômage qui est monté. Il y a des problèmes économiques qui se sont aggravés.
Comment ça?
N'est-ce pas? Non, on ne gagne plus d'argent. Il n'y a plus de rentrées. Il n'y a plus de recettes. Au niveau de la commune, n'en parlons pas. À un certain moment, on s'est retrouvé, les recettes des taxes ne rentrent plus. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de gens qui achètent au niveau de la commune. Il y a des problèmes, on n'arrive même pas à recouvrer. Les 1500 qu'on prenait des taxes, c'était devenu difficile pour nous. Il fallait qu'on mette beaucoup plus de pression pour les gagner. Mais avant, c'était simple. Dès que tu te présentes, on te donne les taxes, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a tellement la montée du chômage dans la commune urbaine d'Agadez, il y a tellement la montée d'autres problèmes encore qui se sont ajoutés avec la fermeture des jadeaux. Ça c'est carrément compliqué et on n'arrive plus à recouvrer nos taxes comme avant.
Voilà, donc
on se retrouve à 10% de recouvrement, pas comme avant, mais avant on se retrouve à combien? 70% de recouvrement des taxes.
Aujourd'hui c'est pratiquement à 10.
Ouais, c'est à 10%, voire 15%.
La parole au vice-président du conseil régional.
Prenons par exemple rien que les transporteurs. Un transporteur transporte à peu près 30 migrants à raison de 5 000 francs par migrant.
Un migrant à 5 000 francs.
Un migrant à 5 000 francs. D'Agadez à Dirkou.
Aux portes de la Libye.
À Dirkou. Donc prenons par exemple rien que ça, 30. Et comptons par semaine une sortie de 500 véhicules. Ce n'est pas exagéré, c'est comme ça. Prenons par semaine.
Même à l'état actuel.
Non, pas à l'état actuel. Au moment
où la loi n'était pas
entrée en vigueur. Donc c'était une activité économique qui était une alternative à l'arrêt des activités touristiques, qui était une alternative à la fermeture effectivement de certaines sociétés minières et qui occupait vraiment un grand ensemble justement de notre jeunesse. Donc c'était une activité économique au niveau de la région d'Agadez et je reviens pour dire qu'elle était légale avant cette loi. Elle était légale parce qu'elle était conforme au protocole de la CEDEAO, elle était légale parce qu'elle respectait le droit africain, la charte africaine des droits des hommes et des peuples. Et je vais vous dire aussi effectivement que à l'occasion des accords de paix, de 1997, il y a deux lignes qui ont été ouvertes pour les gens qui n'étaient pas intégrés dans les différents corps.
Dans
cette affaire de transport de migrants. Je ne parle pas de trafic.
De réinsertion.
Les gens qui disposaient effectivement des 4x4, qui avaient la maîtrise
des véhicules,
qui avaient la maîtrise effectivement
des axes,
on a ouvert deux lignes. Une ligne Agadez-Dirkou, une ligne Agadez-Djanet.
Djanet à Samak.
En Algérie, à Samak. Donc, c'est une ligne.
Tous ces gens-là se retrouvent au carreau aujourd'hui.
Voilà, donc ce sont des lignes qui sont là, connues des autorités locales, et où justement les ex-combattants assuraient régulièrement le transport des migrants. Ça rapportait, ça ne posait aucun problème. Lui, il peut en être témoin. Donc, je pense que c'était déjà une activité qui était reconnu et qui répondait justement à un souci d'intégration des ex-combattants. Il faut le rappeler parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est très important. Maintenant, quant aux autres conséquences,
oui.
Malgré le manque à gagner, justement, au niveau de l'ensemble, effectivement, des couches de la société, les collectivités territoriales ne gagnent plus. Le maire vient de vous le dire.
Pour la région d'Agadez, quelle est la conséquence
La conséquence, c'est un manque à gagner. C'était une activité économique qui a été arrêtée, à laquelle on n'a rien suppléé. Ça veut dire qu'on n'a rien amené qui puisse justement remplacer ce qui a été fait. Et je vais vous dire que, quel que soit ce que la subvention de l'Union européenne, quel que soit ce qu'elle sera, elle ne va jamais compenser ce que l'Agadez gagne dans la migration.
Nous allons revenir sur cette subvention de l'Union européenne. Je vais donner la parole à Bachir. Décrivez-nous un peu la réalité des passeurs aujourd'hui qui se retrouvent au carreau. Qu'est-ce qu'ils font finalement? Bon, vous êtes dans l'attente, vous faites autre chose?
Oui, finalement, ils font rien. On est en train de embêter les maires. Toujours, on part à la mairie, conseil régional, gouvernorat, pour nous chercher le travail. Parce que nous, on ne travaille plus. Les jeunes ne travaillent plus.
Il n'y a pas d'autre alternative.
Il n'y a pas d'autre alternative. On fait rien maintenant.
Mais je vais donner la parole à Azawa, qui est le représentant de l'OIM. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces réalités qui ont été décrites? Pas de recettes? Tout le monde au chômage.
Ce que nous pouvons.
Les répercussions sociales au-delà
des. Les répercussions sont économiques ici. On les voit, elles sont économiques, elles sont aussi sociales. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de créer des opportunités, de créer des alternatives qui, si on empêche aux passeurs de faire des activités, de créer d'autres alternatives qui peuvent les réorienter à faire une activité génératrice de revenus qui va l'occuper et pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il s'intègre aussi dans la communauté.
Créer des opportunités, c'est la dernière partie de notre débat. Donc, c'est pour parler justement des projets de développement pour remplacer, pour faire face aux conséquences de la loi qui est en application. Et dans ce cadre, récemment, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger était en mars dernier à Agadez. Et selon le Sahel quotidien, M. Raoul Polo a signé une convention sur le plan d'action à impact économique rapide à Agadez, qui sera donc encadré par la haute autorité à la consolidation de la paix, avec la participation des autorités locales et régionales par le biais du projet Agapair Agadez, un programme à impact rapide. Le montant prévu pour ça, c'est un peu plus d'1 115 000 euros. C'est un appui. Il a aussi procédé au lancement de plusieurs projets financés dans la région dans le cadre du fonds fiduciaire d'urgence. Donc, 4 projets sont mis en œuvre dans la région pour une enveloppe de 70 millions. Apparemment, l'Union européenne est là pour faire face aux difficultés qui peuvent surgir suite à l'application de la loi. Monsieur le maire, est-ce que les projets sont là viables?
Les projets sont en train de s'installer. Mais avant cela, nous avions émis une inquiétude. Parce que si le président est là, au niveau de la rencontre de Niamey avec ses ambassadeurs de l'Union européenne, moi j'ai été clair avec eux. Et plusieurs de mes collègues l'ont été aussi. Ils leur ont dit, bon, il est simple, pour qu'on puisse arrêter ce flux migratoire, il faut prendre en compte les propositions des communes et des collectivités, du conseil régional, etc., de l'ensemble des collectivités territoriales. Donc on s'était dit que, et moi j'ai dit, on a clairement défini au niveau des résultats de la table ronde la feuille de route pour atténuer le flux migratoire. Et c'était simple. On leur a dit que on a suscité qu'il y ait un engagement de l'ensemble des acteurs à nous suivre, à nous appuyer, à nous aider, n'est-ce pas, à atténuer ce flux migratoire. Mais au retour, qu'est-ce qu'il faut à ces gens-là? Et le président du conseil régional l'a dit tout à l'heure, nous avions dit qu'il est simple, si on veut atténuer ce flux migratoire, il faut commencer par appuyer les acteurs qui interviennent dans le cadre de cette migration.
C'est qui
les acteurs, ce sont eux, les passeurs, les transporteurs, etc. Et nous nous sommes battus pour qu'on nous écoute en ce sens. Mais pour eux, pour les autres et pour l'État du Niger, c'est peut-être des criminels, comme vous venez de le dire dans votre introduction des trafiquants. Quand on dit trafiquants, ça veut dire que c'est illégal et qu'il faut les mettre rapidement en prison.
Ça veut dire que vos préoccupations n'ont pas été prises en compte.
Nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. C'est maintenant qu'ils sont en train de revenir pour dire qu'il faudrait voir l'aspect acteur, etc., etc. Mais les projets de développement, c'est des projets qu'on a l'habitude d'avoir dans la région d'Agadez et au Niger en particulier. Donc, et regardez, à Niamey, quand nous étions à Niamey par rapport aux fonds qui seront destinés à Agadez, c'est Agadez. Aujourd'hui, ces fonds sont divisés en deux. On dit que la région du Nord est à Tawa, Agadez, etc. Donc, il y a même une partie des Andes qui est là-dedans. Donc, tout ça là, nous sommes d'accord sur le Niger. C'est les Nigériens qu'il faut aider, mais il faut prendre en compte les aspirations des communes et ce qu'a dit les communes. Il faut prendre en compte la reconversion de ces acteurs-là pour qu'on puisse atténuer ces flux migratoires. Si réellement l'Union européenne veut nous aider, l'Union européenne n'a qu'à écouter et voir ce que les communes proposent et ce que le Conseil régional aussi propose.
On a créé des cadres pour l'Union européenne. Très rapidement, je vais vous parler effectivement de l'Union européenne et de ce qui a été décidé. À l'occasion, je l'avais dit tout à l'heure, de l'arrivée de la haute représentante de l'Union européenne, il a été très clair. La question qui nous a été posée à l'occasion de cette rencontre-là, c'était de comment faire pour que justement l'appui de l'Union européenne, cette subvention, puisse avoir un impact réel sur l'arrêt de cette migration-là. On avait dit effectivement qu'on a besoin, pour des questions de transparence, qu'il y ait une unité de l'Union européenne à Agadez, et avec laquelle les collectivités territoriales qui ont la responsabilité des questions de développement vont travailler. Donc, voilà ce qui a été dit, et c'était ça la promesse sur laquelle nous, on était partis au départ. Nous avons conçu des documents de planification stratégique, notamment le PDR, où cette thématique migration a été tellement débattue, et nous avons justement dit que la solution idoine qu'il faut prendre pour essayer de limiter effectivement ces questions de migration, c'est qu'il faut nécessairement prendre en compte la question des prestataires locaux de la migration.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, les différents projets qui ont été annoncés, on nous a affecté...
De plus de 1 million d'euros.
On nous a envoyé quelqu'un de DEFCO, de l'Union européenne. DEFCO, c'est l'Union européenne à Bruxelles. Il est présent. C'est quelqu'un qui est animé de très bonne volonté. Mais qui n'a aucune décision et il n'est pas venu par rapport à ce que nous voulons. Parce que jusqu'à présent, les financements se fondent selon la manière classique. C'est des projets qui sont exécutés effectivement par des agences d'exécution de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne, l'AFD, les ONG internationales, et qui sont domiciliés au niveau des ministères techniques. Notre réalité n'est pas prise en compte. Et aucun de ces projets, je vais vous les énumérer, ces projets-là. Vous avez parlé des AGAPER tout à l'heure. Il y a le projet de la haute autorité à la consolidation de la paix, qui devrait être mis en œuvre effectivement par un certain nombre d'ONG. Il y a l'AFD à travers la construction de la centrale nucléaire hybride. C'est un programme qui est domicilié au ministère de l'énergie.
Il y en a plein.
Je veux vous les énumérer.
Oui, on n'a pas le temps.
On n'a pas l'été.
Quel est le résultat
donc,
sur le terrain?
Ces projets-là, aucun de ces projets n'a pris en compte notre préoccupation et n'a pris en compte effectivement l'analyse qu'on a faite par rapport justement à comment solutionner ces problèmes. Il n'y a aucun projet qui ne prévoit de s'intéresser aux acteurs locaux de la migration.
Dont les passeurs. On va passer la parole aux passeurs. Monsieur Bachir, vous qui représentez les passeurs, quelle est l'attente maintenant? Votre attente, c'est quoi?
Bon, nous, on l'attend.
On nous a promis de nous appuyer.
On a préparé des dossiers, des projets. Et on a resté au conseil régional et à la mairie. On a beaucoup de dossiers là-bas. Donc, on est en train de l'attendre.
Jusqu'à l'arrivée.
Donc, non, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Si vraiment rien n'a été fait, on va reprendre les travaux.
L'activité de passer.
L'activité, ça, c'est sûr. On va faire quoi? On va voler.
La parole à Azawa, qui est de l'OIM. Vous avez bénéficié beaucoup du soutien de l'Union européenne, notamment.
Effectivement, dans le cas du financement du fonds fiduciaire, OIM en tant qu'agence des Nations Unies a eu un financement au niveau de l'Union européenne pour exécuter les programmes qu'on appelle MRN. mécanisme Resource Response for Migration, qui nous permet d'assister les migrants sur les routes migratoires au retour. Et dans les centres de transit, dans les centres de transit,
je n'ai pas fini,
il faut me permettre de finir, monsieur Amadou. Et dans les centres de transit, nous assistons ces migrants et à travers les soins de santé, les soins psychosociaux, la nourriture et les transports jusqu'au pays d'origine. Et les MRM nous permet aussi de faire la réintégration socio-économique et de ces migrants une fois au retour dans leur pays. Et ce qui nous a permis d'avoir 5 pays qui sont couverts par les MRM et qui nous permet de... On a 20 projets communautaires cette année qui va nous permettre d'intégrer plusieurs migrants au niveau de leur pays d'origine. Donc, voyez-vous, le fonds fiduciaire de l'Union européenne nous permet effectivement de prendre en charge les migrants des retours volontaires, les migrants qui sont en détresse, qui n'arrivent pas à continuer aussi à partir d'Agadez. On les fait retourner dans les centres de transit de Dirkou et de Arlit et on les envoie ici et d'ici on les envoie à Niamey et de Niamey à travers les ambassades, les consulats. On fait des laissés-passer pour les migrants qui n'ont pas de laissés-passer, qui n'ont pas de papiers. 80% de ces migrants n'ont pas de documents. Ils les ont perdus d'une façon ou d'une autre. Et on les fait des laissés-passer et on les amène dans leur pays, dans la dignité et avec le financement de l'Union européenne.
On va conclure ce forum. Monsieur Bachir, qu'est-ce qui peut se passer?
Bon, la réalité, c'est nous, vraiment, on a fait une déclaration. On a dit qu'on a arrêté ce travail. Donc, ce qui va se passer... Nous, maintenant, on est en train de compter sur notre conseil régional et la mairie. Donc, si vraiment rien n'a été fait, vous voyez, il y a des étrangers qui font ce travail-là. Ils sont en train de faire ça. Avant, comme le deuxième vice du conseil régional, il t'a dit, avant, c'est 100 000. Maintenant, les gens, les étrangers, là, ils prennent 500 000 pour aller à Saba. Donc, si rien n'a été fait, nous, on va reprendre nos travaux. On ne peut pas rester comme ça sans rien.
Monsieur le vice-président du conseil régional.
J'aimerais dire que de toutes les façons, nous disposons de dossiers de projet par rapport justement à cette problématique, de dossiers de projet qui répondent justement à la question, quoi. C'est-à-dire qui prennent en compte effectivement les besoins des populations locales. Donc nous avons ce projet de disponible et nous sommes en train de le soumettre aux différents partenaires. Maintenant, s'ils les acceptent, tant mieux. S'ils ne les acceptent pas, de toutes les façons, nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme.
Qui consiste
justement à dire, comme l'a dit Bachir, qu'on ne peut pas justement gérer la situation, quoi, parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop d'arrêts à Agadez. Arrêt des activités minières, arrêt de la migration, arrêt des activités touristiques. Arrêt des exploitations minières, même quand bien même c'est temporaire. Il y a une très forte pression sur les villes d'Agadez
face à laquelle il faut réagir
nécessairement, parce que c'est ça, entre autres conséquences, la pression sur les besoins, c'est-à-dire sur la disponibilité effectivement des biens de consommation. Et je pense qu'il y a vraiment une urgence au niveau de la région d'Agadez. Seuls ceux qui sont inconscients ne le perçoivent pas. Je vous remercie.
Bon, je pense que tout, ce que je retiens, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut penser aux acteurs, les parties prenantes de cette migration irrégulière, et surtout ceux qui ont les passeurs locaux, surtout ceux qui ont volontairement déposé les véhicules, qui ont volontairement fermé les ghettos. Il faut créer des activités de réintégration pour permettre aux autres qui n'ont pas volontairement fermé de les fermer volontairement.
Monsieur le maire,
La première chose moi qui me torture au fait, c'est d'abord de restaurer la dignité des Nigériens qui vivent de la migration, en prenant en compte tous les projets proposés par les communes et le conseil régional, puisque nous avions créé un cadre de concertation pour en parler. Nous avions fait beaucoup de propositions. Il faut prendre en compte nos propositions. Et ces propositions sont la solution.
Là, vous vous adressez à l'Union européenne.
Oui, je m'adresse à l'État du Niger d'abord. À l'État du Niger d'abord. C'est ça mon premier partenaire. Donc, je dirais qu'il faudrait que l'État du Niger restaure la dignité des Nigériens qui vivent de la migration. Puisqu'il y a une loi qui est là et qui réprime directement, qui stigmatise d'ailleurs les Nigériens qui sont là et qui laissent les étrangers en train de faire cette activité. Moi, je dirais qu'il faut ça. Sinon, les choses ne peuvent pas aller comme l'a dit tout le monde. Moi, je ne peux pas conseiller à mes frères de continuer cette activité. Certes, on doit respecter la loi, c'est une obligation, mais il faut que cette loi, au fait, donne vie aux Nigériens et non qu'elle soit un problème pour nous.
La loi donne vie aux Nigériens, c'est ce que nous retenons comme conclusion dans le cadre de l'application de la loi anti-immigration, la loi 2015-36 qui pénalise particulièrement les passeurs. Donc nous sommes à la fin de ce forum, de ce dialogue. Nous avons eu comme invité le premier vice-président du conseil régional d'Agadez, Aklou Sidi Sidi, le deuxième vice-maire de la commune d'Agadez, Ahmed Koussa, le représentant de l'Organisation internationale de la migration, OIM, M. Azawa Mohamed, et enfin le représentant des passeurs locaux, M. Bachir Hamma Dikoch. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre thématique.